Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésil.
Bonjour, je m'appelle Valérie Lenigène. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, ce podcast qui vous raconte des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés ou encore de fabuleuses aventures maritimes. Quand j'ai rencontré Gilda Sergent pour le tournage de l'épisode consacré à l'extraordinaire histoire de la Brittany Ferries, il m'a parlé d'une petite valise en carton. Une valise, dénichée dans le Finistère à Douarnenez, avec à l'intérieur une centaine de cartes postales jaunies. Des cartes postales envoyées par son grand-père, Fanch, parti en 1917 sur un trois-mâts pour aller chercher du blé en Australie et qui s'est retrouvé entraîné dans un tour du monde. Alors avec Jacques-Henri, preneur de son à France Bleu, on a donné rendez-vous à Gilda là où il a lu pour la première fois ses cartes, devant l'ancienne maison de sa grand-mère, au-dessus du port du Rosmeur à Douarnenez, et on espère bien embarquer pour le siècle dernier. Salut Gilda, bonjour.
Bonjour Valérie.
Je suis contente de te voir.
Moi aussi.
Donc ta grand-mère habitait ici et si on s'éloigne un petit peu pour regarder cette grande maison de pêcheurs avec des signes, hein, on voit bien que c'était des pêcheurs qui habitaient ici.
Et oui, il reste un crochet au pignon de la maison tout en haut. Et ce crochet servait à accrocher les filets de pêche pour les faire sécher. Ou quand ils avaient fait la tannée, quand ils les avaient passés dans le brou de noix ou dans le thym, qui donnait une couleur bleue ou marron, sinon c'était de la sardine ou du maquereau. Et c'est bien, ils ont gardé le crochet là. Ouais.
Et c'est dans cette maison que commence cette histoire de carte postale. Raconte-nous.
Exactement, là où il y a les deux volets fermés, c'était la chambre. Et dans cette chambre-là, sur la fenêtre de gauche, il y avait un petit fauteuil crapaud. Et en dessous, il y avait une petite valise en carton, toute petite, dans laquelle il y avait des cartes postales. Et c'était les cartes postales que mon grand-père et ses deux frères avaient envoyées pendant la guerre 14-18 à mes arrière-grands-parents. Donc, voilà.
Comment tu as découvert cette petite valise ?
Alors, nous sommes dans la rue des Plomards ici. Maintenant, on a une vue dégagée sur les falaises du Riz. Mais quand j'étais enfant, la vue n'était pas dégagée puisqu'il y avait une usine, et pas n'importe laquelle, qui était l'usine rouge. Elle s'appelait comme ça parce qu'elle était faite de briques rouges.
L'usine rouge, c'était une conserverie de sardines.
Exactement. Et ma grand-mère y travaillait, comme beaucoup de femmes à Douarnenez, hein, les fameuses pains de sardines. Des fois, elle ne savait plus trop comment faire, je m'ennuyais. Et c'est là qu'elle avait eu l'idée merveilleuse et géniale de me proposer ces cartes postales qui, avec mes yeux d'enfant, m'ont fait rêver à un point et je crois qu'ils ont décidé après de mon existence.
Comment ça ?
Après, j'ai fait marin au long cours, moi aussi, sur les bateaux.
On va aller voir cette valise chez toi ?
Avec grand plaisir. Et bienvenue chez moi, face à la plage du Riz, à Douarnenez. De Stray, entrée.
Donc c'est cette fameuse valise, une petite valise marron, et donc dedans des cartes postales. Et donc tu l'as retrouvée parce qu'elle était là pendant ton enfance, mais...
En 1979, à 15 ans, je suis parti à l'école au Havre, et ma grand-mère a eu la mauvaise idée de décéder à ce moment-là. L'appartement s'est vidé, et ces cartes postales ont disparu. Et ça m'était sorti de la tête, après j'ai commencé à naviguer à 16 ans aussi, au long cours. Et c'était bien des années après, j'ai posé la question à ma mère, parce que mon père était décédé. Et je dis, mais tu te rappelles pas, ces cartes postales, ça, pff, je vois pas trop. Et j'ai commencé par faire des fouilles archéologiques chez ma mère, d'abord, pour commencer. Et je les ai retrouvées à un endroit incroyable, dans les sous-pentes, tout ça, ça avait été mis tout
dans
en haut.
Dans un grenier ?
Dans un grenier. Et alors, quelle merveille ! J'ai ouvert cette valise, toutes les cartes postales étaient là. Et ça m'a encore plus étonné que quand j'étais enfant, ça me fait encore plus rêver.
Donc François qui a envoyé des cartes postales, alors quand est-ce qu'il a commencé ?
Toutes les dates ne sont pas marquées sur les cartes postales. Fanch, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, François Sergent en breton c'est Fanch, mineur, est appelé sous les drapeaux dès 1915, et c'est à partir de 1917 qu'il commence à faire ce voyage autour du monde pour aller chercher du blé pour nourrir les armées françaises en Australie. Il a 19 ans quoi, hein, 19 ans. Alors, il est appelé sous les drapeaux d'abord à Brest, où il commence quelques navigations donc dans l'Atlantique. Dans les cartes postales, il explique qu'il est appelé à Londres d'abord, puis enfin à Falmouth. Et à partir de Falmouth, là, il attend la possibilité d'embarquer sur un trois-mâts. Ce qui va se passer d'ailleurs, ce trois-mâts-là s'appelle le Colonel de Villebois-Mareuil. Et pourquoi il attend si longtemps? C'est parce que les U-boats, ces fameux sous-marins allemands, commencent déjà à naviguer en Manche et détruisent les voiliers. Et donc, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait un convoi de voiliers qui sortent en même temps de la Manche pour faire en sorte que si les U-boats tirent, ils n'en désinguent que un. Il n'y a qu'un seul qui est coulé et les autres peuvent s'en sauver. Or, si le voilier est tout seul, il est sûr d'être foutu, quoi.
Il commence à raconter cela dans les cartes postales.
Oui, tout à fait.
On peut lire quelque chose là-dessus.
Ah ben oui, on va les retrouver.
Tu les as classées, ces cartes postales, petit paquet. Elles sont beaucoup plus petites que les cartes postales qu'on a connues ces dernières décennies.
C'est vrai, on est au démarrage des cartes postales, même si ça fait quand même quelques temps déjà qu'elles existent. Elles sont, je trouve, très belles, elles sont en couleur.
Pas avec toutes. Cette lumière un peu passée quand même, de le début du siècle dernier.
Ben oui, on est un peu plus de 100 ans. Là, il est à Londres à ce moment-là, il est le 9 mars 1917. Chers parents, deux mots pour vous dire de mes nouvelles qui sont en bonne santé, et je désire que vous êtes de même, et que j'ai reçu les deux cartes et la lettre. J'étais très mal sur les cartes. Maintenant, on est bien ici, même on s'ennuie à rien faire, et en même temps, on joue le football à terre. Si le beurre est moins cher, vous m'envoyez une livre par la poste avant de partir. On dit que bientôt on va partir, mais bon, allez le bonjour à vous. À partir de 1914, c'est vraiment la fin de tous les grands voiliers. Les machines à vapeur arrivaient, et en fait, la guerre de 14-18 a relancé la navigation de ces bateaux-là.
Est-ce que tu as les dimensions de ce trois-mâts?
Alors, je crois que c'est une bonne question. Lors de mémoire, je crois qu'il fait dans les 70 ou 80 mètres, quelque chose comme ça.
80 mètres, voilà.
Comme pratiquement tous les trois-mâts à ce moment-là.
Ben, ensuite, il y a la traversée. Est-ce qu'il y a des escales?
Alors, il va faire des escales en Sicile. Puis après, Adélaïde et Sydney en Australie, où il va charger le blé. Et après, il envoie une carte postale, d'ailleurs, il dit « on ne sait pas par où on va passer quand on va quitter l'Australie, parce que c'est plus rapide pour ces bateaux-là de faire le tour du monde que de remonter contre le vent. » Donc voilà, ils font des circumnavigations, qui s'appellent, ça fait un mot chic latin. Et donc là, il traverse le Pacifique, où il dit « on ne sait pas si on va passer par le Cap Horn ou par le canal de Panama, qui vient juste d'ouvrir. » Mais ça, ça dépend de l'armateur, savoir s'il paye, parce que passer par le Cap Horn, ça coûte rien, tandis que Panama, faut payer. »
Et là, il y a passe une carte Panama. Postale qui raconte ça.
Il y a une carte postale qui raconte ça. Il y a des cartes postales, d'ailleurs, qui montrent Panama. Donc, voilà, une de Panama. Et on va trouver, parce que je suis en train de fouiller dans le tas des cartes postales, on voit le canal, c'est coloré, on voit qu'il est encore en travaux. Chers parents, je vous écris une carte pour vous dire que je suis arrivé à Panama. Je dirais que la traversée a été longue rapport au charbon qu'on n'avait plus. Il est venu un remorqueur pour nous chercher. Sans ça, on ne serait pas encore arrivé d'ici ou à New York. Je vous envoie le canal de Panama qu'on est en train de creuser. Je ne trouve plus grand-chose à vous dire pour l'instant. Alors il y a des fois, il faut être clair, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il essaie de raconter. On voit bien qu'il y a des raccourcis quand même dans les phrases. Là, c'est quand même pas rien pour expliquer cette histoire de charbon. C'était des bateaux à voile, mais ils avaient un tout petit moteur à vapeur qui leur permettait de rentrer et de sortir dans les ports. Arrivé du côté pacifique de Panama, c'est des endroits souvent où il n'y a pas de vent. Le canal de Panama avait une petite escouade de remorqueurs qui allait assez loin, chercher en mer les voiliers, les trois-mâts, pour les remorquer, pour arriver jusqu'à Panama, pour pouvoir passer.
Et donc, quand l'armateur fait finalement le choix du canal de Panama par rapport au Cap Horn, ça leur fait gagner vraiment du temps.
Énormément de temps. Mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher à l'armateur, comme je l'avais dit. Mais comme c'est du blé, c'est quand même pas mal d'arriver assez vite au port de débarquement du blé.
« Donc, Fanch est à bord depuis combien de temps, là ? On ne sait pas.
Alors, ça va assez vite. Hein, quand il part de Falmouth, d'ailleurs, il dit, je pense qu'on part pour une traversée 3 mois avant d'arriver à Adélaïde en Australie. Ça va vite, hein, ces bateaux-là.
Bah, plus après l'Australie. Donc, là, ça fait au moins 4 mois qu'ils sont en mer.
Oui, c'est ça. Oui, 4 mois quand il arrive à Panama, voire un peu plus, 5 mois déjà.
Il ne raconte pas de grosses tempêtes. Peut-être qu'il ne veut pas non plus inquiéter sa mère.
Alors, en fait, il raconte pas grand-chose de sa traversée. C'est ça qui est vraiment étonnant dans ses cartes postales. Alors, dans sa traversée du Pacifique, il dit qu'il s'ennuie à mourir, parce que ce sont des bateaux qui prennent les vents portants, hein, les alizés. Il dit « on s'ennuie à mourir, pourvu qu'on arrive de l'autre côté le plus rapidement possible, avant d'être mangé par les rats ».
Il y a des rats à bord.
Un bateau qui transporte que du blé.
C'est pas pour rire.
Ah non, il y a des rats à bord. Mais il raconte peu de choses. Faut prendre conscience que avant d'embarquer sur les trois mâts, il n'était jamais sorti d'Ordonnée. Et après avoir fait son voyage, il n'est plus jamais reparti d'Ordonnée non plus. Quoi. Et dans ses cartes postales, tout ce qu'il raconte, c'est sa vie d'avant et qui sera sa vie d'après aussi. Il pose des questions sur comment s'est passé la pêche, est-ce que les filets ont tenu, comment expliquer le canal de Panama, comment expliquer Adélaïde, comment expliquer le canal de Suez à des dordonistes qui eux-mêmes ont du mal à pouvoir s'imaginer ça. Donc au moins, en se rattachant au quotidien et à la banalité des jours, y a une connexion qui peut se faire.
Et on continue à fouiller dans ces 104 cartes postales, à les retourner, à déchiffrer difficilement cette écriture pâlie par les années, et on comprend que Fanch navigue sur la côte est des États-Unis.
Le bateau a fait route New York, et c'est là que la vie a changé aussi. Il pensait qu'il allait continuer et rentrer en France, mais pas du tout. Les États-Unis étaient entrés en guerre. Il y avait eu une convention qui s'appelait la Mission Tardieu, qui était un ministre de l'époque. Les États-Unis ont prêté tous leurs bateaux à vapeur pour commencer à débarquer les soldats ici à Brest, entre autres. Et l'Europe, dans cette convention, la Mission Tardieu, fait en sorte que tous les bateaux à voile, donc les 3 mâts, 4 mâts, 5 mâts, puisqu'il y en avait à l'époque, voire même 6, il y avait des schooners américains à 6 mâts, et ben ils restent aux États-Unis pour continuer à faire du commerce. Et ils amènent tous ces bateaux-là à Norfolk, en baie de Norfolk, avant d'être redispatchés sur l'ensemble de la façade est des États-Unis et du continent américain d'ailleurs.
Donc si je comprends bien, là on leur dit, vous n'envoyez plus votre cargaison de blé en Europe.
Oui, c'est ça. Oui, la cargaison de blé reste aux États-Unis.
Il
est débarqué à New York. Et à partir de ce moment-là, les équipages européens sont dispatchés, et sur d'autres bateaux aussi, avec des équipages mixtes, moitié européens et moitié noirs américains.
C'est pas ce que Fanch avait prévu, de rester coincé comme ça aux États-Unis.
Non, il n'avait pas prévu grand-chose, Fanch. Il s'est laissé trimballer dans toute cette circumnavigation. Et celle-là aussi, cette découverte. Alors par contre, c'était pas prévu, mais qu'est-ce qu'il est content. Il écrit dans cette carte postale qu'il est très content de naviguer avec les Noirs américains. Ah, on se dit, tiens, pourquoi? C'est parce qu'on y mange mieux. Et d'ailleurs, il y avait une obligation pour les navires français en nourriture. Les bateaux français, il y avait droit à l'alcool à bord. Et voilà. Quantité raisonnable, mais quand même assez élevée. Mais c'est un budget, l'alcool, alors que les bateaux américains n'avaient pas droit à l'alcool du tout. Donc ils avaient plus d'argent pour pouvoir investir dans la nourriture. Et la nourriture sur les bateaux français se composait obligatoirement d'une soupe aux haricots suivie d'une salade froide aux haricots. On comprend que ce soit des voiliers, hein, ça devait bien marcher au vent. Alors que sur les bateaux américains, il y avait un peu plus de viande, de la nourriture fraîche. Voilà, c'était quand même pas mal, quoi.
Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose qu'il a écrit là-dessus ?
Oui, tout à fait. Je te dirais qu'on a débarqué les Américains pour prendre des Français. Pourtant, on était très bien avec les Américains et on mangeait mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des gros bateaux et ils sont qu'une vingtaine d'hommes d'équipage là-dessus. Hein. 24 des tribordés et des bâbordés, c'est-à-dire qu'ils font un roulement en permanence entre tribord et bâbord. Quand même incroyable, quand même.
Alors là, donc, on a des cartes postales on voit Brooklyn Bridge à New York City, Fanch, 19 ans, qui découvre les États-Unis, et donc probablement aussi les prémices du jazz.
Alors c'est ça qui m'a fait rêver aussi, parce qu'en 1917, il y a une musique qui va bouleverser le monde et qui ne s'appelle pas encore jazz en 1917, si mes sources sont bonnes, mais qui existe déjà. dans plusieurs endroits aux États-Unis, Chicago, mais aussi Norfolk, où il se retrouve, et il se retrouve justement à des équipages mixtes noirs américains et européens. Je ne peux pas m'empêcher de penser que certainement mon grand-père a dû entendre du jazz à bord des bateaux. Puisqu'en 1917, quand les États-Unis entrent en guerre et débarquent ici à Brest, on le sait, on a des images et même des films, des premiers contingents noirs américains qui débarquent à Brest, qui jouent du jazz. Et en 1919, à la fin de la guerre, le premier concert officiel de jazz en Europe, c'est à Nantes.
Imaginez que Fanch a entendu cela.
Et j'essaye effectivement d'être dans la tête de Fanch à ce moment-là, quitter Douarnenez un peu après 1914. On est encore dans une société complètement traditionnelle. Entendre ça, mais c'est comme Armstrong sur la Lune, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. Ça fait rêver, hein.
Ce jazz qui arrive à Brest, sans doute, il ne peut pas le savoir, Fanch, évidemment. Qu'est-ce qu'il va raconter ensuite dans ses cartes postales?
Alors, il va toujours continuer à prendre des nouvelles de la maison, savoir comment s'est passée la saison de pêche, quelle est la taille des sardines, si ça a bien vendu, si les filets n'ont pas été trop déchirés. Il n'a jamais écrit son étonnement de ce qu'il a découvert. Quand on a calculé l'ensemble des cartes postales, il y avait à peu près une carte postale qui arrivait chez mes arrière-grands-parents tous les 10-12 jours. Mais... comment mes arrière-grands-parents, en voyant une carte postale de New York, comme celle que je tiens dans la main, avec un building immense, le Woolworth Building, est-ce qu'ils pouvaient expliquer ce qu'ils voyaient? Ou alors, ça n'intéressait pas non plus de découvrir ce monde, ce qui l'intéressait, c'est son univers. L'Europe est en guerre, la guerre existe partout, hélas, comment on donne des nouvelles des êtres qu'on aime, comment on communique et qu'est-ce qu'on leur raconte? Est-ce qu'on peut raconter une guerre d'ailleurs? Comment on peut raconter ça?
Ensuite, il a terminé comment son tour du monde? Il est rentré?
Alors, il est rentré en 1900, longtemps après la fin de la guerre, hein, en fin 1919.
Et est-ce qu'il est rentré avec un trois-mâts aussi?
Oui, il est rentré avec un trois-mâts aussi. Et là, on ne sait pas trop où. Je ne sais pas si c'est à Bordeaux ou à Brest, mais je crois que c'est à Bordeaux. Là, on ne sait pas trop.
Là, il n'y a pas de carte postale pour raconter ce dernier retour vers
c'est
l'Europe
ça.
Son arrivée à Douarnenez, évidemment, là, on n'a pas de traces.
Non, après, c'est fini.
Gilda range les cartes postales dans la valise en carton et cette histoire l'interroge. Un siècle seulement, c'est allé si vite.
C'est pas cinq générations, hein, c'est mon grand-père et qui, lui, a navigué sur des bateaux à voile et on est arrivé maintenant à des porte-conteneurs qui transportent 20 000 conteneurs, quoi. Moi, j'ai navigué sur ces gros porte-conteneurs et j'étais pas le seul avec certains commandants avec qui je m'entendais très bien, qui avaient quand même mauvaise conscience à un moment. On est quand même le bras armé de la mondialisation, quoi. Avec du fioul lourd, quand on voit ce qui sort des cheminées, c'est quand même pas chic, quoi. Et jusqu'à où on va aller? Est-ce que l'apprenti sorcier qu'est l'être humain va continuer à essayer de croire qu'il peut maîtriser la nature comme ça?
Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésil.
C'était l'incroyable histoire de Fanch Sergent, un tour du monde à la voile en carte postale. Un épisode que vous pouvez à tout moment réécouter sur l'application Radio France ou sur francebleu.fr.